RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis, avec Melchior Gormand.
L'ancienne ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, s'est récemment attiré les foudres en déclarant qu'il y a, en France, un patrimoine culturel du 19e siècle qui n'a pas grand intérêt. Pour elle, il faudrait choisir entre les églises que l'on restaure et celles que l'on rase. Alors pour comprendre ce qui se joue, nous vous proposons exceptionnellement ce matin de réentendre l'émission « Je pense donc j'agis » du 5 décembre 2022, dans laquelle nous nous interrogions avec Pauline de Torsiac sur le sort du patrimoine religieux en France. Un patrimoine important, mais dont l'avenir est parfois menacé. Et notez que dans la seconde partie de l'émission, on parlera du prix Sésame lancé il y a quelques mois pour récompenser des initiatives promouvant une revalorisation respectueuse des lieux de culte en France. Vous entendrez quelques exemples à 10h. Et comme c'est une rediffusion, merci de ne pas appeler le standard. Bonne écoute. Et en ce lundi matin, Pauline de Torsiac est à nos côtés. Bonjour Pauline.
Bonjour Melchior, bonjour à tous. Église, chapelle, abbaye, cathédrale, il suffit de sillonner la France pour constater que notre patrimoine religieux est exceptionnel. On estime à 100 000 le nombre de lieux de culte sur notre territoire. Plus de 40 000 d'entre eux sont la propriété des communes en vertu de la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État. Les maires doivent donc les entretenir et les restaurer. 15 000 édifices sont également protégés au titre des monuments historiques. Un patrimoine riche, hein, vous l'avez dit, Melchior, mais fragile. Alors pourquoi cet héritage spirituel et culturel est-il aujourd'hui menacé? Pourquoi y sommes-nous si attachés? Comment le préserver? Et faut-il le protéger à tout prix? Et puis comment accompagner les maires dans cette mission? Eh bien, on va en parler jusqu'à 10h, Melchior, avec nos invités.
Oui, avec nos trois invités d'ailleurs qui sont avec nous.
Pierre Ouzoulias, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes sénateur communiste des Hauts-de-Seine, vous êtes ancien archéologue, vous êtes l'auteur d'un rapport d'information sur l'état du patrimoine religieux, travail que vous avez mené en tandem avec la sénatrice Les Républicains de l'Ardèche, Anne Ventalon. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cet audit?
C'est un retour du terrain. C'est des maires, beaucoup dans des départements ruraux, alors... C'est pas le cas des Hauts-de-Seine en ce qui me concerne, mais j'ai de fortes attaches limousines en Corrèze, et donc c'est une problématique que je connais un peu, et des maires désemparés parce que ils voient aujourd'hui leur grande difficulté, notamment budgétaire, à continuer à entretenir un patrimoine religieux auquel ils sont très attachés, quelle que soit leur couleur politique, leur croyance ou leur non-croyance. L'église, elle est au centre du village, selon l'expression, et donc ils tiennent absolument à continuer à l'entretenir. Et aujourd'hui, pour 2 000 ou 3 000 édifices, ça devient difficile.
Alors vous-même, Pierre Ouzoulias, vous êtes athée. Justement, ça représente quoi ce patrimoine religieux que vous défendez dans ce rapport d'ailleurs?
Et moi, je me souviens très bien que mon grand-père, maire communiste de Palisse, est sur le plateau de 2000 vaches pendant 3 mandats. Il avait mis vraiment un point d'honneur à restaurer son église, l'église Saint-Martial de Palisse, parce que pour lui, c'était l'histoire des communautés paysannes. C'est un édifice intéressant, petit, mais où on sentait que la pierre parlait. Et la pierre racontait l'histoire de ces populations. Donc, pour moi qui suis historien et archéologue, c'est des monuments qui s'ancrent dans une histoire qui aujourd'hui doit être préservée.
Mmh. Et pourtant, alors dites-moi si c'est aussi un peu paradoxal, vous venez de déposer une proposition de loi pour consacrer la loi de 1905 dans la Constitution. Et pour vous, finalement, la République, elle ne doit pas reconnaître ni salarier ni subventionner aucun culte. Comment est-ce qu'on fait?
Alors ça, c'est la loi de 1905. Hein. Et donc ce que je souhaite, c'est que la loi de 1905 puisse s'appliquer partout. C'est en grande cohérence avec ce que j'ai fait sur le patrimoine religieux, parce que j'estime, contrairement à d'autres, que la laïcité, ce n'est pas renvoyer la religion dans la sphère du privé. Et que je crois qu'aujourd'hui, il faut que les églises, les cultes s'expriment publiquement, politiquement, surtout. pas seulement sur ce qu'on appelle les dossiers sociétaux, l'avortement, la fin de vie, mais aussi sur ce qui touche aujourd'hui la planète, le climat, l'environnement et l'économie. Et moi, je suis très heureux, très souvent au Sénat, de citer le pape François. Dans l'hémicycle, le pape François est sans doute beaucoup plus cité sur les rangs de mon parti qu'ailleurs. Et donc, je trouve que la loi de 1905, parce que c'est une loi de liberté, liberté de conscience, elle permet justement la libre expression des cultes, y compris dans le domaine politique, et c'est quelque chose de très fort.
Alors, à vos côtés, Père Gauthier Mornaz, bonjour.
Bonjour madame.
Alors vous êtes responsable art sacré à la conférence des évêques de France. Pierre Ouzoulas l'a bien décrit, il y a beaucoup de clochers d'églises, de chapelles en France auxquelles les Français sont attachés. Paradoxalement, il y a une pratique qui se réduit, une sécularisation de la société, des églises à l'abandon. Vous votre positionnement, voilà, il se fait comment? Parce que il y a encore aussi des églises et des lieux de culte où on célèbre justement ce culte.
Le premier constat que je fais, tout à la fois comme prêtre, curé encore de paroisse jusqu'il y a quelques semaines, et aussi comme amoureux du patrimoine, historien de formation, c'est qu'en fait le patrimoine c'est d'abord une grande passion nationale. C'est d'abord une grande passion des Français, qui n'est jamais démenti, que ce soit qu'on passe des journées européennes du patrimoine à la nuit des églises, de visites guidées en collecte pour la restauration du petit patrimoine bâti, du lavoir du village, etc. C'est quand même une grande passion française. Et je crois que c'est aujourd'hui un impérieux besoin pour l'Église aussi que d'en prendre conscience et de se dire que ce patrimoine qui, j'allais dire, nous appartient symboliquement, il est aussi d'abord et avant tout patrimoine commun des Français. Et pas seulement parce que la loi le redit, qu'effectivement 95% des églises de France sont propriétés communales et que les cathédrales sont propriétés d'État. Je crois que c'est une prise de conscience de l'Église aussi, que ce patrimoine, il nous appartient certes parce que nous en avons l'usage privilégié, mais que ce patrimoine, il appartient d'abord à la nation tout entière.
Et vous dites même que c'est le premier musée de France, ces églises contiennent des trésors.
Oui, alors je suis très heureux d'avoir piqué cette expression à la Fondation pour la sauvegarde de l'art français, qui elle parle du plus grand musée de France. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup utiliser cette expression. C'est le premier musée de France. C'est quelque chose qu'on ne sait pas nécessairement, mais vous avez dans toutes les églises et chapelles communales de France additionné plus d'œuvres d'art que dans le musée du Louvre, qui est lui-même le premier musée au monde. Donc c'est vous dire que pour un amoureux du patrimoine, un amoureux de l'expression artistique, se dire que dans n'importe quelle église de village, dans n'importe quelle chapelle de bourg ou de hameau le plus reculé de France, vous avez une œuvre d'art et que c'est là la première possibilité pour les plus jeunes Français, éloignés des métropoles urbaines, des métropoles culturelles, etc., le premier accès à la culture disponible, c'est pour moi quelque chose de fondamental. Et c'est vrai que ça incite, à mon avis, tout le monde à travailler ensemble pour faire que ce patrimoine religieux conserve, dans la mesure du possible, sa dimension culturelle, c'est évident, mais surtout puisse développer sa dimension culturelle et offrir toutes ses potentialités au plus grand nombre.
Et dans un instant, vous parliez de la Fondation de la sauvegarde de l'art français. On devrait retrouver à vos côtés Jacques de Chauvelin, responsable justement de la communication de la Fondation de la sauvegarde de l'art français. Il était coincé dans le métro. Il devrait pas tarder à arriver peut-être. Alors, un mot de ce rapport et des constats que vous avez pu faire, Pierre Ouzoulias. Dans quel état il se trouve ce patrimoine religieux? Voilà, plutôt en bon état, en mauvais état? Comment qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui de tous ces lieux de culte qui sont importants?
Alors première chose, il n'y a pas d'inventaire national.
Ce qui est très surprenant, c'est ce que l'on découvre dans notre rapport.
C'est quand même un souci. C'est-à-dire que le ministère de la Culture a fait un dernier bilan sanitaire des édifices religieux dans les années 80. Et depuis, il n'en a plus les moyens. Donc ce sont les régions qui aujourd'hui ont la charge de l'inventaire du patrimoine. Elles le font plus ou moins bien, mais il n'y a pas à l'échelon national, à l'échelon central, un organisme qui puisse récolter toutes ces informations. Donc on a quelques coups de sondage qui nous permettent de dire que finalement le patrimoine religieux français est en Europe celui qui est sans doute le mieux entretenu et le mieux conservé, parce que la loi de 1905 et puis avait avant elle ce qui a été fait en 1789 fait que les bâtiments sont des bâtiments municipaux et entretenus à ce titre par les communes. L'Italie par exemple, pour prendre cet exemple, a un patrimoine religieux beaucoup plus important, mais dans un état qui est beaucoup plus préoccupant.
Alors, si on devait distinguer, est-ce que les édifices sont plus dégradés en milieu rural qu'en milieu urbain ? Est-ce que, voilà, sur l'état de ces lieux de culte, est-ce qu'on peut faire une petite distinction ?
Oui. Il y a très grosse disparité géographique pour plusieurs raisons. D'abord, moi je suis sénateur des Hauts-de-Seine. Dans les Hauts-de-Seine, le patrimoine religieux est plutôt récent. Il a été construit après 1905 et à 70% il est propriété de l'évêché, ce qui est une problématique différente. En milieu rural, les églises, elles sont quasiment toutes propriétés des communes, mais elles souffrent bien évidemment d'une baisse de la fréquentation qui est consécutive d'abord à une baisse de la population. Donc je reprends l'exemple du plateau de mille vaches. Malheureusement, un curé aujourd'hui, il s'occupe parfois d'une trentaine, voire plus, de paroisses. Le culte est épisodique et c'est là où ça pose le plus de problèmes, parce que pour qu'un édifice historique soit bien conservé, il faut qu'il soit ouvert, entretenu, chauffé. Dès que les lieux sont fermés trop longtemps, il y a des problèmes avec l'humidité, et c'est là que ensuite les problèmes de restauration arrivent vite. Donc il y a très forte disparité. Je cite aussi cet exemple parce qu'il est important et il nous a beaucoup ému. C'est les synagogues de la Haute-Alsace, du Haut-Rhin, qui, parce que il y a un régime particulier de propriété de ces synagogues, que malheureusement il y a de moins en moins de croyants de cette confession, sont aujourd'hui en grand danger. Et il y a des petites synagogues en milieu rural qui ont été vendues, qui ont été réaménagées dans des conditions qui sont pas toujours satisfaisantes. Donc là, il y a vraiment nécessité d'un plan national d'envergure pour sauver ce patrimoine qui est vraiment en danger.
Et l'intérieur est plus dégradé que l'extérieur ? Dans ces lieux, souvent.
Souvent, pour des raisons de gestion de l'humidité, essentiellement.
Vous êtes sur RCF, il est 9h16, nous sommes toujours avec nos deux invités, bientôt trois d'ailleurs, Jacques de Chauvelin de la Sauvegarde de l'Art français va nous rejoindre dans un instant. On parle du patrimoine religieux ce matin dont je pense, donc j'agis. Pauline, on continue.
Alors, Père Gauthier Mornas, justement, les prêtres, les curés de ces églises, ce sont les affectataires, ils n'ont pas en charge justement de restaurer ces lieux de culte, mais j'imagine qu'ils sont finalement aussi sensibles à cette dégradation. Comment ça se passe ?
Bien évidemment, je le vois aussi de mon côté. Je suis persuadé que le plus grand danger pour ces édifices, comme le disait le sénateur Zulia, c'est qu'ils soient fermés. Alors, il y a une réaction première qui est de dire, mais oui, mais quand un édifice est fermé, on est sûr qu'il est en sécurité, qu'on va pas nous voler des œuvres d'art. Moi, je suis persuadé du contraire. C'est-à-dire que je suis persuadé que c'est beaucoup plus facile de voler des œuvres d'art dans un édifice dont on sait qu'il est ouvert que tous les 3 mois et donc on découvrira le larcin 2 mois et demi après, alors que s'il est ouvert tous les matins et fermé tous les soirs, lorsqu'il y a eu un dommage dans la journée, on peut le signaler automatiquement. Donc je pense que c'est un énorme travail pour mes confrères prêtres que de trouver dans chaque village, dans chaque hameau, une personne capable d'ouvrir tous les matins et de fermer tous les soirs. Ça semble énorme. Je suis persuadé, en vous redisant que le patrimoine, c'est une passion nationale, je suis persuadé que c'est trouvable dans chaque commune. Et il y a vraisemblablement des pistes aussi à trouver avec tout le monde associatif et aussi les collectivités locales qui, par définition, sont très attachées à ce patrimoine qui leur appartient. Donc je pense qu'il y a vraiment une sensibilisation du côté de l'Église, une sensibilisation à faire auprès du clergé à ces problématiques-là. Et en disant aussi, même si on le sait, mais sans cesse le répéter, faire œuvre de pédagogie, se dire qu'une église, elle ne vit pas simplement, elle ne vit pas seulement du culte et de ce que dans l'Église on a souvent résumé au culte suprême qui est la messe. Il y a mille et une autres manières d'un point de vue cultuel de faire vivre les églises. De même que, on le verra, je l'imagine, un tout petit peu plus tard dans l'émission, il y a d'autres usages qui sont possibles aussi dans les églises, par le simple fait déjà que ces usages, on les vive depuis plusieurs décennies.
On va revenir effectivement tout à l'heure sur les moyens de préserver ce patrimoine religieux, mais vous aviez commencé à évoquer ce qui menace ce patrimoine, voilà l'exode rural, effectivement le fait que ces églises soient fermées. Qu'est-ce qui menace, qu'est-ce qui met très concrètement en péril aujourd'hui ce patrimoine, Pierre Ouzoulias?
La désaffection, le fait que les bâtiments sont de moins en moins utilisés de façon trop sporadique, donc il faut leur redonner une vie, c'est tout. Et moi j'ai été très très surpris et très content de voir que ça soit les élus, que ça soit la conférence des évêques de France et les sénateurs, on était tous d'accord sur un terme qui était la resocialisation de ces édifices cultuels, fait que de nouveau, il soit réapproprié par la totalité de la population, y compris les non-croyants, pour continuer à faire vivre ce patrimoine, l'entretenir et y accueillir à l'intérieur des manifestations sociales dont très souvent les petits villages manquent. On a été très surpris de voir que dans certaines communes où la Covid a amené des habitants qui étaient avant la ville, finalement, la façon dont ces personnes se sont rattachées à la vie de leur nouvelle commune, ça a été par le biais de l'église, par le biais du patrimoine, un investissement sur tout ce patrimoine historique. Donc je pense que le patrimoine religieux dans ce domaine-là a encore beaucoup de choses à nous apporter en termes d'intermédiation. Vous savez, la médiation, c'est la grande crise du 21e siècle. Ça, je pense que il faut absolument maintenir présent tous ces éléments qui permettent de la médiation sociale, c'est absolument déterminant.
Je m'incruste dans la réponse, oui. Il y a aussi, je crois, surtout la méconnaissance, c'est-à-dire que très peu, que ce soit des élus ou des communautés paroissiales, savent réellement ce qu'il y a dans l'Église et toutes ses potentialités. Moi, quelque chose qui m'a toujours un peu frappé, un peu déçu comme curé de paroisse, c'est qu'à chaque fois que j'ai essayé de tendre des perches, faire les écoles maternelles et primaires pour les inviter à venir faire une initiation à la vie artistique, à la peinture, à la statuaire, dans une Église, on m'a toujours opposé la loi de séparation des églises et de l'État, et je trouve ça d'une stupidité absolue, c'est-à-dire que vous avez vraiment de l'autre côté de la place de la mairie une église extraordinaire du 12e ou 13e, avec un chemin de croix qui dit quelque chose, bien évidemment, de la foi chrétienne, mais au-delà de la foi chrétienne, qui dit quelque chose, j'allais dire, des fondements culturels de notre société, et si des gamins aujourd'hui n'apprennent pas ça, au-delà de toute conviction personnelle qui engagera chacun plus tard, s'ils sont pas mis au courant de cet état de fait historique, il y a quelque chose de mon point de vue qui va manquer à leur éducation élémentaire. Donc c'est aussi une méconnaissance de ce qu'est une église aujourd'hui.
Pierre Ouzoulias, c'est une méconnaissance aussi de cette loi par les maires ?
Oui, pas seulement par les maires, par un peu tout le monde. On s'est endormi sur ce qu'on croyait être quelque chose parfaitement ancré dans la République, dans la société française. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a une méconnaissance profonde de ce qu'est la loi de 1905. Je réagis à ce que vous avez dit, mon père. Enfin, c'est catastrophique. Si des enseignants aujourd'hui considèrent qu'on peut pas rentrer dans une église au nom de la loi de 1905, c'est qu'ils en ont pas compris l'esprit du tout. Je pense personnellement aussi que le fait qu'aujourd'hui il y a une distance entre le patrimoine religieux et un grand nombre de Français, c'est parce que il y a une perte de culture religieuse. Ah, et ça, c'est quelque chose qui est dramatique, qui est grave. Moi, je suis dans une famille datée depuis trois générations, mais on a transmis une culture religieuse. Mon grand-père passait beaucoup de temps dans la Bible, moi-même dans les évangiles, parce que ça fait partie de notre histoire et notre patrimoine, et on doit transmettre ça. Donc, je suis aussi complètement atterré par le niveau des enseignements sur la religion qui sont données par le biais des leçons d'histoire. Quand vous prenez les listes d'histoire du collège, ce que j'ai fait, il n'y en a pas un seul qui vous dit que le Christ était juif. ce qui est quand même un peu embêtant. Alors Paul, oui, parce que sinon on comprend pas le chemin de Damas, mais le Christ, non. Donc là, il y a un souci et on doit absolument apporter une culture religieuse minimum pour faire que les gens aujourd'hui arrivent à s'exprimer par rapport à ce patrimoine qui, encore une fois, je le dis, hein, qui est le patrimoine commun de la nation. Juste encore deux mots. Moi, je suis un grand lecteur de l'abbé Grégoire. L'abbé Grégoire, prêtre conventionnel, qui a demandé deux choses. D'abord, que le patrimoine religieux soit patrimoine commun de la nation, et c'est la première réflexion sur les monuments historiques, et qui ensuite était un farouche partisan de la séparation de l'Église et de l'État, au nom d'un gallicanisme qui était très très fort en 1789.
Alors on va accueillir Jacques de Chauvelin qui vient de s'installer dans le studio. Bonjour Jacques de Chauvelin.
Bonjour.
Merci d'être arrivé jusqu'ici malgré les galères dans les transports. Vous êtes responsable de la communication Fondation de la sauvegarde de l'art français. Alors justement, on était en train de parler de ce patrimoine religieux en péril, mais auquel sont attachés les Français. Justement, rappelez-nous peut-être un petit peu le rôle de votre Fondation de la sauvegarde de l'art français. À quoi elle sert ?
Alors nous, la Fondation La Sauvegarde de l'Art Français, on est une des plus anciennes structures de défense du patrimoine en France, hein, puisqu'on a eu 100 ans l'année dernière. Et donc, de un siècle, on veille à la préservation du patrimoine religieux en particulier, mais du patrimoine de manière globale également. Et donc, nous, notre rôle, nous sommes mécènes hein, dans l'action pour la préservation du patrimoine. Et donc, nous avons cette double casquette pour la restauration d'édifices et pour la restauration de patrimoine mobilier, donc d'œuvres d'art. Donc dans l'opération que nous avons appelée le plus grand musée de France, qu'évoquait le père Mornas à l'instant.
Alors justement, peut-être pour qu'on comprenne bien, quelle est l'enveloppe que vous donnez chaque mois ou chaque année pour la restauration d'édifices religieux ? Parce que c'est une part importante aussi.
Oui, alors nous on est un des plus gros mécènes privés pour la restauration de patrimoine religieux. On donne entre 1 et 2 millions d'euros par an, distribués à peu près une centaine de projets qui sont dans la très très grande majorité des projets conduits par des communes, hein, des mairies, et je le précise, en milieu rural. C'est-à-dire que nous avons des communes qui font dans la grande majorité entre 100 ou voire 50 habitants jusqu'à 1500, 2000, 3000 habitants, mais ce sont des petites communautés qui sont souvent démunies. Pour la recherche de financement, dans un budget communal qui peut être très restreint.
Voilà, vous avez un rôle de conseil, vous apportez des fonds. On viendra sur l'importance du mécénat aussi, justement, pour restaurer ce patrimoine religieux. Mais on est une auditrice.
En tout cas, on est très heureux de vous avoir tous les trois, hein, Pierre Ouzoulias, Gauthier Mornas et Jacques de Chauvelin. Et oui, on parle du patrimoine religieux ce matin. Vous avez la parole au 04 72 38 20 23 où nous attend Catherine. Bonjour à vous, Catherine.
Oui, bonjour à tous.
On vous écoute.
Alors, bien écoutez, je vous remercie déjà de me donner la parole. Ensuite, je suis très heureuse d'avoir entendu à l'instant l'existence de la sauvegarde de l'art français. Je vous explique pourquoi. En fait, nous sommes en Savoie, dans un village où l'église, effectivement, comme vous l'avez dit, se détériore par l'intérieur à cause de l'humidité, d'autant plus que les enduits intérieurs qui étaient mis dans les années 70, puisqu'elle a été rénovée à cette époque-là, étaient plutôt chargés en matière, semblable à du plastique. Et du coup, les murs ne respirent plus. Donc, nous avons entrepris avec la mairie et la Fondation du patrimoine aussi, de la rénover. Au niveau du village, nous avons fait monté une association pour justement collaborer dans cette opération. Et je voulais dire que nous sommes encore en recherche de fonds, bien sûr, puisque lorsque vous touchez à quelque chose, c'est comme dans une maison, quand vous commencez à rénover d'un côté, il faut continuer parce que tout est attenant. Et en fait, pour que nous puissions arriver jusqu'aux vitraux qui ont 150 ans et qui, on le sait, un vitrail dure à peu près 100 ans, il faut que nous puissions trouver de l'argent. Donc, en fait, ma question auparavant, avant le témoignage de la personne qui a parlé dernièrement, que je remercie beaucoup, est-ce qu'il existe d'autres moyens de trouver des financements ? Je dois dire que notre mairie est très, très investie dans le projet, mais voilà, on a besoin d'aller un peu plus loin.
Merci Catherine, merci pour votre témoignage sur RCF. Jacques de Chauvelin, des Catherine comme ça, il y en a de partout hein, en France. On accueillera Florence d'ailleurs, une autre auditrice qui aura à peu près la même question. Des auditeurs, des auditrices qui s'engagent, qui ont envie de préserver leur patrimoine, mais qui ne savent pas vraiment
par où s'y prendre,
Jacques.
Bah c'est vraiment un problème qu'on a de manière récurrente à la sauvegarde, hein. C'est-à-dire qu'on a des porteurs de projets qui nous appellent, des petites mairies, des associations, donc des gens qui sont vraiment passionnés, qui ont envie de faire bien et de rendre la vie dans leur église, dans leur chapelle. Et ils sont souvent confrontés à ce problème-là, de savoir où trouver l'information, vers qui aller, même que ce soit dans les institutions publiques, hein, auprès de donc les financeurs publics, la DRAC, tout ce qui peut être de l'ordre de la DETR, les préfectures, le département, la région, et puis les mécènes privés, hein, qui sont peuvent être une part importante. Donc il y a la Fondation du patrimoine, d'autres fondations au niveau national. Il y a aussi des associations, des fondations au niveau local, en région aussi. Donc il faut vraiment savoir où aller les trouver, hein, et parfois c'est un petit peu difficile pour des communes comme ça d'aller multiplier les financements. Et puis il faut souvent aussi monter des dossiers à chaque fois, donc qui se ressemblent, hein, mais c'est une mécanique aussi à prendre en jeu pour des gens qui sont pas forcément formés à l'ingénierie financière. Et donc c'est quelque chose qui est assez récurrent. Et puis sur le cas qui a été décrit tout à l'heure, c'est vraiment typique, c'est-à-dire qu'on a des très belles églises qui ont subi des restaurations, si on peut appeler ça comme ça, dans les années 60-70, avec des matériaux souvent de mauvaise qualité, qui respectent pas l'édifice, qui le laissent pas respirer. Donc on a des enduits ciment, des choses qui sont aujourd'hui plus du tout appliquées, mais ça a fait beaucoup de mal, hein, à l'époque, dans des campagnes de restauration, souvent pas trop surveillées par les conservateurs, par les DRAC, hein, aussi par manque de moyens. Et donc aujourd'hui, on a aussi ce type-là de problématique qui revient souvent, avec des églises qui souffrent en fait 20, 30, 40 ans après de ce type de restauration.
Pierre Ozulia, c'est important cet accompagnement justement des communes, pour les aides, pour la partie administrative. On a l'impression que c'est quand même pas simple de se lancer là-dedans.
Non, c'est un point qui est absolument déterminant, c'est ce qu'on appelle l'aide à la maîtrise d'ouvrage. Aujourd'hui, les directions régionales des affaires culturelles, les DRAC, donc qui dépendent de l'État, sont de moins en moins capables d'assurer pour le compte des collectivités cette aide. Donc il faut se tourner vers d'autres. Et dans notre rapport, il nous a semblé que le département, et au sein du département, les CAUE, Conseil de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement, était à même de pouvoir apporter aux collectivités des conseils, parfois des financements, et de toute façon des aides, parce qu'il y a des vraies compétences à ce niveau-là pour aider les communes. Ce qu'on a dit dans notre rapport, et je crois que ça a bien été entendu, c'est que... Je le dis de façon forte et un peu provocatrice, il n'y a plus rien à attendre de l'État dans ce domaine. L'État, dans le domaine du patrimoine non protégé, aujourd'hui n'a plus les moyens budgétaires, n'a plus les moyens humains de pouvoir aider les collectivités. Donc il faut trouver d'autres relais, et il nous semble que le département serait sans doute très adapté pour le faire.
Voilà, suite dans un instant de cette rediffusion du 5 décembre 2022 consacrée au patrimoine religieux. En France, à tout de suite.
Passer la folie des grandeurs, l'envie de jouer les grands seigneurs. Passer l'ivresse, passer l'ardeur, quand les fruits n'ont plus de saveur. Revenu de 7 ans de malheur, d'un accouchement dans la douleur. Lassé de mentir, de faire l'acteur, quand on n'est plus à la hauteur. Restent les murs porteurs des amis en béton, un frère, une petite sœur, pour voir à l'horizon. Restent les murs porteurs pour tenir la maison, pour surmonter ses peurs, ou vaincre ses démons. La main sur le cœur, plus fort que d'être le meilleur. Perdu dans le collimateur, qu'on soit soldat ou déserteur. des candies gravés dans le cœur, des milliers d'heures de vol au compteur, des beaux discours, des beaux parleurs, qu'on soit dans le flou ou dans l'erreur. Restent les murs porteurs, des amis en béton, un frère ou une grande sœur, pour voir à l'horizon. Restent les murs porteurs, pour tenir la maison, pour surmonter ses peurs, ou vaincre ses démons. Jouer les durs, les cascadeurs, des souvenirs hauts en couleur, de l'utopie, d'un monde meilleur, de tout ce qu'on a appris par cœur.
Les murs porteurs, Florent Pagny pour vous accompagner sur RCF en ce lundi matin.
Vous écoutez une rediffusion. Merci de ne pas appeler le standard.
Le patrimoine religieux nous intéresse ce matin dans Je pense donc j'agis avec nos trois invités. Bonjour Florence.
Bonjour Florence.
Bonjour.
Allez,
bonjour à tous.
C'est à vous, on vous écoute.
Ah bon, Je pense donc j'agis. Ah ben écoutez, je suis vraiment très touchée d'écouter cette émission. Je prenais ma voiture pour me rendre à un rendez-vous et je m'arrête parce qu'il fallait absolument que je vous appelle. Je suis présidente d'une petite association qui s'appelle Défense du patrimoine de Chinon et de ses environs, donc en Indre-et-Loire, dans le sud du département. Petite ville grand renom avec un patrimoine exceptionnel et qui a été longtemps, très longtemps négligé, soit par l'entretien, soit pour des questions de restauration. Alors, mon témoignage aujourd'hui, c'est plutôt par rapport en réaction à tout ce qui a été dit, car tout est vrai, et en même temps, le contraire aussi. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il ne faut plus rien attendre de l'État, c'est vrai qu'il n'y a plus d'argent, mais il y a quand même de l'argent. C'est-à-dire qu'il faut aller le chercher. Il faut aller chercher les soutiens, et on doit sortir d'un schéma, en fait, où on attend que tout se fasse naturellement, avec des dossiers, des procédures, la DRAC, etc. Vous savez, moi, j'en ai fait des courriers à la DRAC, on m'a rarement répondu, voire jamais. J'ai candidaté pour un patrimoine exceptionnel à Chinon, qui est la chapelle Saint-Radegonde, pour l'édition de la mission Berne.
Oui.
Nous avons été retenus, mais comme cette chapelle absolument exceptionnelle qui comporte une fresque profane dans une chapelle semi-troglodyte qui date d'avant avant le Moyen-Âge, donc il y a toujours une présence spirituelle à cet endroit, a attiré l'attention de beaucoup d'universitaires également. Il y a une thèse actuellement à Poitiers qui est en train d'être écrite là-dessus.
Oui.
Eh ben écoutez, le patrimoine appartient à la ville. Nous avons un problème quand même avec l'anticléricalisme qui est tellement puissant que ça bloque, ça verrouille tout. C'est-à-dire qu'on ne peut même plus parler de patrimoine, de pierre, voyez-vous. Mmh. Et donc, quand je vais tous les ans au Salon du patrimoine international, au Carrousel du Louvre, qui est un lieu magique parce qu'on rencontre des acteurs de tous horizons, bénévoles, institutionnels, professionnels, etc.
Oui.
Et que je vois le diocèse qui porte à bout de bras un projet de construction contemporaine, et Dieu sait que c'est intéressant, mais attention, dans contemporain, il y a tout et n'importe quoi. On voit en matière d'urbanisme des cochonneries qui sont construites actuellement.
Ça nous questionne énormément, hein. C'est ce qu'on entend, Florence.
Oui, ça me questionne, parce que nous sommes un pays quand même qui, jusqu'à il n'y a pas longtemps, était une première destination touristique, admirée dans le monde entier pour son patrimoine, protégé ou non d'ailleurs. Et au passage, je salue l'action d'Alexandra Sopsak, présidente de Urgence Patrimoine, qui intervient justement en urgentiste au chevet du patrimoine menacé. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans notre pays?
Florence, on va en parler avec nos invités. Je me permets de vous couper puisqu'on a encore quelques auditeurs qui vont devoir passer à l'antenne. Mais c'est très intéressant ce que vous avez dit. Pierre Ouzoulias, je me tourne vers vous puisque Florence, elle a dit, on dit qu'il n'y a pas d'argent, mais il y en a quand même, il faut le trouver. Et puis elle a parlé de l'anticléricalisme. Ça, vous en avez parlé aussi tout à l'heure.
Oui, alors qu'elle se rassure. Hein. Je suis sénateur communiste et athée et pourtant je défends le patrimoine religieux.
parfois dans des circonstances difficiles. Hein. L'actualité en ce moment, c'est la loi sur les énergies renouvelables et les éoliennes. Au Sénat, j'ai rappelé que des relais de téléphones portables sur les églises ou des panneaux photovoltaïques sur les églises, c'était peut-être pas une bonne solution et qu'il fallait continuer encore à défendre ce patrimoine, parce que même les besoins d'énergie que nous avons aujourd'hui et qui sont très forts, ils doivent prendre en compte la nécessité de la préservation du patrimoine. Alors, anticléricalisme, je pense pas. Je pense que plus fondamentalement, c'est une distance qui se fait avec le patrimoine en général, le patrimoine industriel et le patrimoine agricole, auquel je suis extrêmement attaché, et malheureusement dans une situation encore beaucoup plus précaire. Vous savez, des machines agricoles, des tracteurs, des vieilles granges, il y a tout un tas de musées aujourd'hui qui les collectionnent et qui sont dans des états absolument dramatiques. Alors eux, ils ont aucune aide, ni la commune, ni l'État. Donc ce qu'il faut, et vous l'avez dit fort justement, madame, ce qu'il faut, c'est réinsuffler une culture patrimoniale générale. Je dis au Sénat très régulièrement que le patrimoine, c'est pas une charge, c'est un investissement pour l'avenir. Et la France est en effet la première destination touristique du monde, et c'est sans doute lié à l'état de son patrimoine.
Alors, Père Gauthier Mornas, une réaction aussi sur ce qu'a dit
Florence. Ah oui, moi, je suis très touché par le témoignage de Florence. Vous savez, j'ai une nature profondément, désespérément optimiste. Donc, c'est-à-dire que j'essaye toujours de tirer le meilleur d'une situation. Moi, ce qui me frappe dans le témoignage de Florence, c'est son enthousiasme.
C'est on ça qui est merveilleux. On sent sa passion, c'est vrai que c'est...
Ah, on sent sa passion, et ça, je veux dire, pour moi, c'est le premier moteur... Oui, c'est le premier moteur de la défense et de la promotion de notre patrimoine, et en particulier le patrimoine religieux. Quand on est attaché, comme semble être Florence, à ce morceau de France, à ce morceau d'histoire de France, à ce morceau du patrimoine de notre pays, je me dis, le combat, il est déjà à moitié gagné.
Et c'est on ça sent qui aussi qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. On sent cette volonté aussi de préserver. Ben
c'est évident,
enfin,
c'est une chose
sacré.
Sérieuse. Donc oui, c'est évident. Puis c'est surtout pas devant le responsable de la communication de la Fondation pour la sauvegarde de l'art français que je vais dire le contraire. Donc oui, c'est très sérieux, c'est évident.
Jacques
Et ça demande une technicité.
Oui, ben moi, ce qui me touche dans ce témoignage, c'est bon, bien sûr cette passion, hein, comme on le voit, c'est les associations qui portent à bout de bras certains projets qui vont aujourd'hui se transformer vraiment en agences d'ingénierie financière, qui vont aller trouver les financements. Comme on le dit, l'État n'est plus là, n'est plus autant présent, plus de maîtrise d'ouvrage. Et peut-être un constat qu'on a nous aussi à la sauvegarde, c'est que finalement la couleur politique des mairies importe peu dans la préservation du patrimoine. Je pense que c'est vraiment des engagements personnels, des visions de la chose patrimoniale comme quelque chose à préserver dans la commune. Et donc en fait, on a vraiment tous les exemples. C'est-à-dire qu'on a des maires qui sont athées et communistes, mais qui vont prendre très grand soin de leur patrimoine, alors que certaines sensibilités politiques, on verrait plus à s'occuper du patrimoine, on n'ont pas grand-chose à faire et ont des projets plus concrets, plus contemporains. Donc là-dessus aussi, je pense que c'est un peu quelque chose de global en France, c'est que la sensibilité patrimoniale, elle touche tous les bords politiques, toutes les mairies, tous les élus. Et voilà, nous, ce qui nous désole le plus, c'est quand on a des mairies qui ont du patrimoine magnifique qui doit être préservé, où on a une peur de l'investissement, où on ne sait pas où s'adresser, et donc on délaisse, on entretient peu, et finalement ça conduit à des catastrophes.
En tout cas, l'une des préconisations de ce rapport, on en parlait au début de cette émission, et on va en reparler maintenant parce que elle est intéressante, c'est il faut réinvestir les lieux de culte. Ça, c'est vraiment un point fort de ce rapport, et c'est un point que vous partagez tous, je crois. Voilà, de quelle manière réinvestir les lieux de culte, justement, pour les resocialiser, pour les faire vivre, pour éviter qu'ils se dégradent. Voilà, comment on fait exactement, Pierre Ouzoulias?
Alors, en rentrant dans votre immeuble, j'ai eu l'immense plaisir de retrouver Benoît de Sagazan, que nous avions auditionné à plusieurs reprises.
Qui sera dans ma partie.
Hein,
voilà,
10 heures.
Voilà, vous voyez, je vous fais la transition.
Bah, c'est sympa, ouais.
et qui nous avait dit quelque chose qui m'a fortement marqué, parce que moi je suis historien de l'Antiquité, c'est que l'Église, c'est le temple à l'envers. C'est-à-dire que dans les religions polythéistes, le temple accueille la statue du dieu et les fidèles sont dehors, devant l'autel qui est à l'extérieur. Et le christianisme provoque ce chambardement total
et absolue de renverser cette problématique. C'est-à-dire que, je parle sous votre contrôle, mon père, hein, c'est-à-dire que le Dieu est parmi tous les fidèles sont dans l'Église, et l'Église est un bâtiment qui accueille l'Ecclésia dans sa relation avec la divinité. Donc d'un point de vue presque théologique et conceptuel, l'Église, elle est nécessairement ouverte sur le monde. Ah, elle peut pas se couper du monde puisqu'elle accueille la totalité de la chrétienté et au-delà. Donc c'est cet état d'esprit qu'il faut retrouver. Et bien évidemment, aujourd'hui, pour être concret, il faut que les églises s'ouvrent et accueillent d'autres activités, mais qui soient bien évidemment compatibles avec l'esprit du lieu. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a des églises qui s'ouvrent l'été pour accueillir les lycéens qui préparent leur examen, leur bac. L'église d'abord, elle est fraîche. Il n'y a pas l'internet, ce qui aide pour réviser. Et c'est un lieu très calme qui permet de faire vivre pendant cette période de l'année les églises. Alors il y a plein d'autres exemples, mais c'est ça qu'il faut trouver. C'est ça qu'il faut trouver. Donc d'autres usages sociaux des églises qui soient, je le dis encore une fois, qui soient respectueux de la destination originelle des édifices.
Père Gauthier-Mornas, l'église ne doit plus être juste un lieu où l'on célèbre le culte, la messe.
Elle ne l'a jamais été. Elle ne l'a jamais été. Elle a toujours connu, c'est pas une nouveauté, elle a toujours connu des usages sociaux compatibles avec ce qu'elle est par destination, par essence. C'est déjà un travail que nous avons entamé à la conférence des évêques, c'est de commencer par répertorier tous ces usages qu'on appelle compatibles et qui généralement sont facilités par des conventions types qui sont passées entre le propriétaire, l'affectataire et l'usager. Et puis on a déjà répertorié, j'ai des grandes catégories de ces usages qui sont à la fois des usages culturels, des usages éducatifs, des usages sociaux, des usages touristiques et puis des usages caritatifs ou solidaires. J'aurais peut-être même dû d'ailleurs commencer par eux parce que c'est vraisemblablement les plus compatibles et les plus proches de l'essence même de ce que l'on célèbre dans ces églises-là.
Alors, c'est vous pouvez donner quelques exemples?
Oui, bon, le sénateur disait à l'instant l'accueil d'étudiants qui viennent y faire des révisions. Mais on a aussi l'accueil des plus démunis et l'accueil des pèlerins. C'est quelque chose que, j'allais dire, toutes les églises qui sont situées sur des chemins jacquaires connaissent par excellence. Les usages touristiques, quand on voit effectivement, on l'a redit, que notre pays est la première destination au monde en termes de tourisme, c'est bien évidemment que dans beaucoup d'églises en France, vous avez des visites qui sont organisées, des centres d'interprétation, je pense en particulier au centre d'interprétation du vitrail, comme on peut en avoir plusieurs en France, mais tout un tas d'autres techniques artistiques aussi. Des usages sociaux, on a commencé à l'entendre cet été, considérant les églises un peu comme des asiles climatiques, des lieux de refuge climatiques. Je trouve que la notion, elle est quand même intéressante et elle peut être travaillée aussi. On sait aussi que dans les églises, on accueille d'ores et déjà des écoles d'orgue, des écoles de classe de chant. On sait aussi que les églises sont déjà aujourd'hui des lieux qui peuvent être, alors ce sont pas des salles de spectacle, mais qui peuvent accueillir des concerts, qui peuvent accueillir des représentations théâtrales, des expositions temporaires.
Il faut que ce soit cadré, vous l'avez dit, c'est quoi la limite en fait? Jusqu'où on va? Et est-ce que au sein de l'Église, vous êtes tous d'accord? Est-ce que tous les curés sont d'accord avec ça?
Alors, je pense qu'il y a clairement un travail de formation à faire sur ce qui peut relever de la compatibilité et ce qui ne peut pas en relever. Mais je pense que, enfin, le terme a été évoqué à l'instant, c'est ce qui est respectueux. Et je crois que autour de ce texte, de ce terme-là, pardon, on peut se retrouver assez facilement avec un tout petit peu d'intelligence et de bon sens.
Jacques Le Chauvelin, sur ces usages partagés, votre point de vue?
Alors nous, peut-être le préalable à tout ça, c'est que la sauvegarde, on est du côté du financeur qui va aider à faire des travaux de restauration. Et en fait, la question qui se pose assez vite, une fois qu'on a terminé le chantier, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'église? C'est-à-dire qu'on a une église, une chapelle qui est magnifique, qui est restaurée, qui a une valeur patrimoniale énorme, mais comment on la met en valeur, comment on la fait vivre? Ça, c'est vraiment une question à laquelle on a essayé de répondre, notamment l'année dernière, par un colloque au Sénat. Et en fait, il faut déjà avoir une position assez... pratique, hein, voire au cas par cas, selon les spécificités régionales, selon la volonté de l'affectataire, toujours en respectant l'esprit du lieu, bien sûr. Mais on est très favorable à, voilà, à des usages partagés, à des conventions qui règlent les choses, qui permettent aussi de donner aux églises d'autres fonctions. Et donc, on a notamment travaillé avec des associations comme Églises Ouvertes, qui sont du côté vraiment de la valorisation, de proposer un dispositif en fait à la commune pour faire vivre ce patrimoine. Et puis il y a d'autres moyens, hein. Il y a les comités touristiques départementaux qui peuvent proposer des chemins, on a des dispositifs qui peuvent s'inclure à plus large échelle, qui sont très très vertueux pour ce type d'édifice, puisque nous on parle sur la valeur patrimoniale. Si on ne sait pas qu'il y a une telle peinture murale à aller voir dans une église au fin fond de la Bourgogne, eh bien, si l'information ne passe pas, voilà, il faut que les villes puissent se faire aider aussi par des institutions, par les commissions diocésaines pour l'art sacré et le patrimoine. Donc voilà, il y a pas mal de leviers à activer, mais encore faut-il qu'il y ait une association, des habitants qui veulent vraiment faire vivre la commune, l'église.
On a Marie-Josée avec nous, 04 72 38 20 23. Bonjour Marie-Josée.
Oui, bonjour, bonjour à tous.
Bonjour Marie-Josée.
Et merci de cette passionnante réflexion. Dans mon village autour d'Annecy, c'est autour d'Annecy et Annecy, il y a eu un tremblement de terre. Je crois que c'est en 1995.
Oui.
Et donc toutes les églises ont pris, comme on dit. Et l'église de Lovagny a pris évidemment aussi. Elle a été réparée et ça, je sais pas combien ça a coûté évidemment. Mais beaucoup de gens ont dit après, nous on va jamais à l'église et puis on paye pour ça. Et alors le premier événement, enfin qu'il y a eu à la fin de la restauration, après la restauration, c'était un concert de gospel. Et on peut pas dire que ça unit vraiment tout le monde. C'est Oh Happy Day, comme vous connaissez, et les gens étaient vraiment heureux, l'église était ultra remplie, et c'était vraiment une très très belle chose. Et ces jours-ci, eh bien, il y a, comme d'habitude, tous les ans à Noël, il y a un concert des enfants, je crois que c'est les enfants des écoles, évidemment, je suppose qu'on n'évitera pas Petit Papa Noël.
Bon, on verra bien.
Mais c'est quand même un concert de Noël qui est donné tous les ans à cette époque-là.
Merci Marie-Josée pour ce témoignage dont je pense, donc j'agis. C'est intéressant ça, Pierre Ouzoulias, hein, cet impôt qui a dû être payé par les habitants de cette petite commune, par tout le monde, mais tout le monde n'était pas content.
Oui, mais ça, c'est le propre de l'impôt, hein.
Ah, oui.
C'est que vous participez à des charges publiques, même quand vous n'utilisez pas le service public. Personnellement, et c'est le moment d'en parler, j'aime pas du tout le football. Moi, ma culture, c'est plutôt le rugby. Mais je finance, comme tous les autres, le football. Et c'est comme ça. Donc, ce qu'il faut dire à cette dame, et puis surtout à ces gens qui reprochent à la mairie de mettre l'argent dans l'église, c'est que l'église, c'est notre patrimoine commun, ça se discute pas. C'est un bâtiment collectif, c'est la propriété communale, et quelle que soit sa destination, on doit l'entretenir. Je pense que c'est quelque chose de fondamental. Après, je pense comme elle que la meilleure solution pour ramener ces citoyens qui sont loin de l'église, alors je parle du bâtiment, c'est en effet de les ouvrir et de montrer que elles ont un rôle social qui dépasse très largement la communauté des croyants.
Alors, on l'a entendu il y a un instant avec vous aussi, Jacques de Chauvelin. Vous le rappeliez, il faut plusieurs acteurs pour qu'ils se mettent en lien, hein, pour arriver à préserver ce patrimoine, pour en faire des usages respectueux. Finalement, il y a quand même beaucoup de caps à franchir. Est-ce que c'est compliqué comme ça? Ça a l'air un peu compliqué, même s'il y a cette passion au démarrage.
Effectivement, il faut de la volonté, hein. Il faut s'engager sur le terrain, faire du réseau, connaître les acteurs, qu'ils soient institutionnels, privés, autour de la valorisation du patrimoine. Donc c'est effectivement de cette passion du patrimoine peut découler une force qui permet de s'engager vraiment et d'aller trouver les bons interlocuteurs. Mais effectivement, pour une petite commune, d'aller expliquer ensuite à ses administrés que voilà, on utilise une partie du budget qui est déjà restreint pour faire une voire plusieurs tranches de travaux sur une église, c'est difficile. Il faut savoir faire de la pédagogie, expliquer que le patrimoine c'est aussi une valeur, hein, que ça va rapporter à la commune en termes touristiques, en termes de visibilité. Voilà, en fait, peut-être une réflexion qui me vient, c'est de dire on s'insurge contre l'argent dépensé dans les communes pour la restauration d'une église, mais il faut voir aussi la réaction des gens, qu'ils soient religieux ou non, quand on détruit une église. C'est-à-dire que l'image du clocher qui est détruit à coup de tractopelle, c'est la pire chose pour une mairie. Certainement que les gens qui s'insurgent en disant « je paye des impôts pour quelque chose qui ne me concerne pas » seraient aussi les premiers à s'insurger s'ils voyaient que leur église était vouée à la destruction. Donc il faut savoir trouver les bons mots pour expliquer aux habitants. Je pense que beaucoup sont convaincus aussi, hein, et qui en plus de leur impôt peuvent donner sur des souscriptions, peuvent participer directement. Donc c'est vraiment un aspect pédagogique pour les maires, hein, qui bien sûr en font beaucoup dans leur commune déjà. Mais là, voilà, il faut aussi pouvoir l'expliquer.
Pierre Ouzoulias, il faut il y a une mission, votre rapport d'information sur le patrimoine religieux. C'est une feuille de route, mais il faut aussi sensibiliser finalement sur le terrain à cette question-là.
Bien sûr, bien sûr. Alors vous connaissez la façon de travailler du Sénat, hein, donc nous suivons dans la durée ce type de dossier. Avec ma collègue Anne Ventalon, on refera un point très régulier, peut-être pas tous les ans, mais très régulièrement, pour voir si nos préconisations d'abord ont apporté quelque chose sur le terrain, et puis collecter tous les exemples qui ont montré que ça marche, parce que ça c'est important. Je partage, Père Mornaz, votre optimisme, je crois que c'est important. Donc on va continuer à travailler là-dessus. Je pense que ce qu'on a mis en place au Sénat avec cette mission est fort, parce que ça exprime un consensus. Un consensus, et aujourd'hui dans notre République, les consensus, c'est quand même des choses précieuses. Il n'y en a pas autant que ça, donc il faut continuer à bâtir là-dessus.
Et vous, Père Gauthier Mornaz, l'enjeu, c'est quoi? C'est que finalement, que l'on soit croyant ou non croyant, on arrive à rentrer dans ces églises, qu'on découvre effectivement des œuvres d'art, un patrimoine, mais aussi peut-être une présence, autre chose.
C'est évident. Enfin, je vous apprendrai rien en vous répondant en tant que prêtre, qu'en étant persuadé que une œuvre d'art, expression de la beauté, peut conduire à la beauté avec un grand B. C'est évident que je suis persuadé que tout ce patrimoine, il est d'un point de vue spirituel témoin d'une présence qui dépasse allègrement ce que l'on peut imaginer. Et que oui, ce dont je rêve, c'est évident, ce dont je rêve, c'est de la découverte de ce Dieu d'amour qui ne demande qu'à se faire connaître.
Merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous éclairer sur ce patrimoine religieux qui est très riche en France, qui est aussi un peu menacé. Et voilà, vous avez donné quelques pistes de solutions justement pour continuer à le faire vivre. Pierre Ouzoulias, merci. Je rappelle que vous étiez sénateur, comme il disait, Haute-Seine. Vous êtes l'auteur d'un rapport d'information sur l'état du patrimoine religieux. Père Gauthier Mornaz, vous êtes responsable de l'art sacré à la Conférence des évêques de France. Et Jacques de Chauvelin, merci aussi d'être venu. Vous êtes responsable de la communication à la Fondation de la sauvegarde de l'art français. On poursuit la discussion.
Oui, Melchior, alors, juste pour signaler qu'avec Jacques, on a l'occasion de se retrouver presque tous les mercredis pour une chronique Agir pour la sauvegarde du patrimoine avec vous, Jacques de Chauvelin, où Jacques nous emmène dans des petites chapelles, des petites églises qui, grâce à l'engagement des bénévoles et grâce à l'engagement de cette belle fondation, des chapelles et des églises qui reprennent vie. Jacques, on se retrouve prochainement du coup ensemble sur RCF, et comme vous l'avez dit, Pauline, dans un instant, on va très concrètement vous parler de ces reconversions de certains lieux, avec notamment la Fondation du Patrimoine qui a lancé le prix Sésame pour récompenser des initiatives d'usage partagé ou de reconversion de lieux de culte. Allez, à tout de suite.